Bonjour à toutes et à tous, que la grâce et la paix de Jésus soient sur nous. Nous sommes là pour le glorifier, pour l'adorer, et nous allons le faire à travers sa parole. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « La bonté de Dieu ». La bonté de Dieu. C'est quelque chose sur laquelle on compte beaucoup en tant que chrétien, n'est-ce pas? Et il est tiré du psaume 13. Le psaume 13. Donc, ouvrez vos Bibles dans ce psaume. Et on va encore une fois le décortiquer, ce psaume, car c'est ça que nous devons faire avec la parole de Dieu et pas la lire comme si c'est quelque chose qu'on a appris par cœur. Mais il faut la lire, bien la lire. Car en la lisant, on la médite en même temps. Hein, j'entends des fois des chrétiens qui nous parlent de Jean 3, 16. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bien ça, récité par cœur. Mais si on lit mot par mot, c'est là qu'il y a la compréhension. Et dans ces psaumes, justement, nous allons le décortiquer et découvrir cette bonté de notre Dieu qui déverse sur chacun de ses enfants. Il la déverse avec amour. Voilà pourquoi, donc, lisons ces psaumes. 13. On commence par le verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Amen. Quel beau psaume. Et surtout, si on veut comprendre la bonté de l'Éternel, c'est le verset 6. Hein? Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Est-ce que le Seigneur, il vous a fait du bien? Oui. Merci, Seigneur. Vous savez, ces psaumes, il y a trois étapes dans ce psaume. La première étape, c'est le mot « jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand ? Ça vous est pas arrivé à un certain moment de dire au Seigneur « jusqu'à quand, Seigneur ?» Et on peut le dire, parce que David le dit. Hein. Et si David l'a dit, imaginez-vous nous. « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il y a dans le psaume 107, il nous est dit, ils crièrent à l'Éternel et le Seigneur, l'Éternel les délivra de toutes leurs angoisses. Il est répété 4 fois. Et ici, jusqu'à quand, il est répété 4 fois. Ils crièrent à l'Éternel. Il faut le dire les choses au Seigneur lorsqu'ils sont là. Et pas les garder pour nous. Il faut même les crier. Et ici, David, il crie vraiment, hein. Jusqu'à quand? Et vous savez, il y a des moments dans notre propre vie dans lesquels c'est légitime de crier auprès de Dieu et lui dire, mais jusqu'à quand, Seigneur, tu vas permettre ça? Qu'est-ce que tu attends pour intervenir dans ma vie? Surtout lorsque la souffrance se prolonge ou lorsque nos difficultés se prolongent. Lorsqu'il n'y a pas d'issue, jusqu'à quand, Seigneur? Je suis sûr que chacun de nous, un jour ou l'autre, il a lancé ses cris au Seigneur. Mais encore une fois, c'est légitime. Et vous savez, David, lorsqu'il lance ses cris à le Seigneur, il ne pense pas à la guerre, au combat, mais il pense surtout à son état d'âme. Il pense que Dieu, il est éloigné de lui, que Dieu n'est plus près de lui, qu'il n'intervient plus pour le relever, comme les prophètes le disaient. Et alors, il se tourne dans la difficulté, dans la souffrance vers le Seigneur. Parce que c'est vrai que lorsqu'on se trouve dans des moments comme ça, on est vraiment découragé, n'est-ce pas? Et on se dit, mais moi, j'essaye de suivre la Bible, j'essaye d'obéir aux commandements et de les mettre en pratique. Regarde, il y a des gens qui ne font aucun cas à Dieu, à la parole de Dieu, et ils vivent dans l'abondance. Et moi, Seigneur, regarde. Et David, il a crié ces choses-là. David, il parle surtout de sa relation avec Dieu. Il a dit, si tu me laisses tomber, c'est qu'il y a quelque chose à moi qui va pas. Je n'ai plus cette communion avec toi. Et il parle aussi des soucis qu'il a dans son âme. Pas de victoire, pas de guerres ou des ennemis. Bon, il dit mes ennemis, mais vous savez, nous, en tant que chrétiens, on a des ennemis, hein. On a des ennemis. Et nous devons crier à Dieu afin qu'il puisse intervenir, avant le droit de crier auprès du Seigneur. Et nous devons le faire. Crier pour qu'il intervienne. Hein, ça, on le lit dans les versets 1 à 3. 4 fois, il dit le mot « jusqu'à quand ?» C'est vraiment David, il montrait sa détresse. Et nous devons crier au Seigneur. Lorsque quelqu'un de notre famille est malade, qu'est-ce que c'est qu'on fait? On crie. C'est arrivé que les docteurs ils disent il n'y a plus d'espérance. Qu'est-ce que c'est qu'on fait? On crie encore plus, on prie encore plus pour que le Seigneur puisse. Et il peut le faire. Souvenez-vous d'Ézéchias, ce roi. Dieu, il envoie Esaïe, il lui dit, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Ézéchias, il se tourne de l'autre côté de son lit, il prie. Il crie au Seigneur. Esaïe, il était parti une fois qu'il lui a donné cette annonce, il était sur le trajet de retour, et il lui dit, retourne voir Ézéchias. Et tu lui dis que sa prière a été exaucée, et il lui a donné encore 15 années. Mais il faut crier au Seigneur. Pour faire quoi? Pour lui dire, Seigneur, en dehors de toi, j'ai rien. Je ne peux rien faire, interviens. Jusqu'à quand? Alors, lorsque nous vivons ce moment-là, crions auprès du Seigneur, mais pas vraiment crier et se tourner vers lui, hein. Lui donner la première place en toutes choses. Ensuite, il y a les versets 4 et 5. Relisons ça, 4 et 5. Une fois qu'on a crié, une fois qu'on dit à Dieu, jusqu'à quand? Voilà ce que David il dit. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. La deuxième étape, ce qu'il fait David, et ce que nous devons faire aussi, c'est quoi? C'est la supplication. On crie, mais on doit supplier le Seigneur. Et il lui dit, regarde, réponds, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que mes yeux, ils puissent voir ce qu'il arrive dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans ma vie? Car je sais que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux. Et si quelque chose ne va pas dans ma vie, c'est que S'il y a quelque chose que tu n'interviens pas, c'est que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et supplier d'intervenir, le Seigneur. Ouvre mes yeux, éclaire mes yeux. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on ne voit pas. David, il avait dit, je te demande pardon pour les péchés que j'ai oubliés. Ou pour les choses que j'ai oubliées. Donc, il passait tout en revue. Voilà pourquoi il dit, illumine mes yeux, donne-moi la lumière. Je l'ai cette lumière en Jésus-Christ, mais ouvre mes yeux. Car des fois, nous disons, je suis chrétien, j'ai Jésus-Christ, mais il y a tellement de choses qui sont cachées à nos yeux. Et lui, il dit, ouvre mes yeux, pour que je ne meure pas, pour que je ne meure pas comme les autres ils meurent. Moi, j'ai un Dieu d'espérance, j'ai un Dieu de bonté. Les autres n'ont pas toutes ces choses-là. Ils supplient le Seigneur d'intervenir. Hein? De ne pas aussi regarder les ennemis. David le dit, pour que les ennemis ne disent pas, je l'ai vaincu. En tant que chrétien, c'est ce qui compte, c'est comment Dieu il nous voit, pas comme le monde il nous voit. Paul, il nous le dit clairement, vous êtes plus que vainqueurs. Pour le monde, peut-être que nous sommes vaincus, mais pour Dieu, nous sommes des vainqueurs. Il faut faire taire nos ennemis. Comment? Par l'amour. Et David, peut-être, il a perdu cela, et c'est là que, justement, il y a eu cette histoire avec Bathsheba. Vous vous souvenez, lorsqu'il a péché. Voilà pourquoi aussi Dieu, il avait un peu éloigné. Et c'est ce qu'il avait fait, au lieu d'aller à la guerre avec le peuple d'Israël, il est resté chez lui, assis. Comme je dis toujours, le Seigneur, il ne nous a pas sauvés pour rester assis à la maison ou attendre. Il nous a sauvés pour aller. Et David, c'était un guerrier. C'était quelqu'un, c'était un général, c'était quelqu'un qui a tué. Voilà pourquoi, lorsqu'il voulait construire un temple pour le Seigneur, qu'est-ce que c'est que le Seigneur, il a dit? Il a dit, non, tu vas pas construire le temple parce que tes mains, elles sont remplies de sang. Ça va être ton fils qui fera ça. Voilà pourquoi nous devons vraiment supplier le Seigneur pour ce qu'il puisse. Et David, il a fait ça dans sa désolation. Vers qui il pouvait se tourner? Lui, le roi d'Israël. Vers qui il pouvait se tourner? Hein? Vers qui diriger sa tristesse? Des fois, c'est vrai que quand il nous arrive des pépins, vers qui nous allons demander de l'aide? Vers Jean-Pierre? Vers moi? Oh. Mais seul, c'est Dieu. Car c'est lui qui peut nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Hein? Notre accablement de cette vie, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner. Et c'est à cela aussi que je m'invite et je vous invite à faire. Lorsqu'il y a des moments difficiles dans notre vie, tournons-nous vers Dieu, pas vers autre personne. Car le seul qui peut intervenir, c'est lui. C'est Dieu qui peut nous enlever de toutes ces détresses dans lesquelles nous pouvons être. Et Dieu, il nous a dit, lorsqu'Israël il a crié, l'Éternel est intervenu. Le Seigneur, il veut regarder dans le cœur de chacun de nous que nous n'avons pas d'autre appui que lui. Et c'est alors qu'il va intervenir. Il va nous donner cette assurance. Vous savez, David, il était dans une sale situation ici. Jusqu'à quand, Seigneur? Regarde dans l'état dans lequel je suis. Mais l'état, il est toujours là. Si les psaumes s'arrêtaient là, ça serait la déchéance. Mais après les cris vers l'Éternel et après les supplications, il y a ce verset 6 qui est merveilleux. Il est merveilleux. Hein? Et c'est cette troisième étape hein, dans laquelle que nous devons réfléchir, car c'est un psaume. C'est un verset qui peut que nous faire du bien et constater la grande bonté de Dieu. Et justement, il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. Malgré qu'il était dans les difficultés, malgré il a supplié. Il savait qu'il y avait que Dieu qui pouvait intervenir. Et il dit, malgré que je suis dans cet état-là, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. C'est un peu comme il avait dit Josué au peuple d'Israël. Hein. Il était arrivé à la fin de sa vie, alors il les a sortis à vivre pour le Seigneur. Et il a dit, le Seigneur, il est là, il a fait tant de miracles pour vous. Hein, moi, je vais arrêter. Servez le Seigneur. Il a dit, je ne sais pas si vous allez le servir, parce que ça, je ne vois pas l'avenir, moi. Mais moi, je vous le dis clairement, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, je vous conseille de le faire. Et ici, David, il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. Beaucoup d'autres se seraient tournés vers d'autres choses. Ou sinon de dire, bah, l'Église, ou les chrétiens, ou les hommes spirituels, je vais essayer de me débrouiller tout seul. Non, David, il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et pourtant, il était dans la tristesse. Hein? Il criait, hein? Il suppliait. Et il dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Pourquoi? À cause de ton salut. À cause de ton salut. Et je chante à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, il me fait du bien et il me fera du bien. Voilà pourquoi ce verset est très important. Et j'ai voulu le décortiquer, ce verset, parce que c'est quelque chose de fantastique pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Il dit, la première partie, c'est « Moi, j'ai confiance ». Et ici, on met, il s'appuie sur le mot « moi ». Ce n'est pas un égoïsme. Mais c'est parce que il voyait que en lui, il n'y avait plus rien qui pouvait lui apporter le soulagement. Et il dit, moi, dans moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, j'ai confiance à l'Éternel. Et David, il dit qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans ma vie, tout autour de moi. Mais, voilà, je mets tout entre les mains du Seigneur. J'ai confiance en lui. Est-ce que nous faisons de même lorsque ces choses nous arrivent? Ou nous nous décourageons, nous abandonnons? Il faut se dire, le Seigneur est avec nous. C'est lui qui nous a promis que toutes choses, ils iraient bien si nous obéissons. Et David, il dit, malgré toutes ces choses-là, moi j'ai confiance à l'Éternel. Avoir confiance, c'est quoi avoir confiance? Avoir confiance, c'est avoir la foi. Avoir la foi. C'est très important, la foi. Hein? C'est la foi. Et si vous savez, la foi et confiance, c'est le même mot en grec. Donc, il faut absolument avoir la foi. Hein? C'est quelque chose de très important. Un peu aujourd'hui, ça, je vous l'ai dit souvent, et ça arrive, les gens, aujourd'hui, il y a ces deux camps. Il y a les créationnistes et il y a les autres, ceux qui ne croient pas à la création. Et alors, des fois, dans les témoignages, ils nous demandent, mais pourquoi tu crois dans la création? C'est vrai que c'est difficile. Je le répète souvent, hein, vous avez déjà entendu le dire. Hein, pourquoi est-ce que nous, on croit dans la création? Mais pas parce que Dieu nous le dit dans l'Épître aux Hébreux. Nous y croyons parce que Dieu le dit. Sinon, c'est quelque chose d'impossible dans notre intellect. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'une personne dise que la lumière soit et la lumière fut. On n'arrive pas à comprendre. Mais Dieu le dit dans l'Épître aux Hébreux. Et alors, je crois Dieu. Au lieu de croire ce que les gens y disent. Parce qu'il est Dieu. Et donc, c'est à nous de faire, c'est un acte de foi. Et vous savez, lorsqu'il y a un acte de foi, c'est volontariat. C'est volontaire, moi, que nous le faisons. Vous savez, il y a ce verset dans la Bible qui dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend, nous devons le mettre en pratique. Ça vous arrivait à chacun de vous, vous savez, lorsqu'on a entendu pour la première fois le message du salut. Lorsque celui qui nous a témoigné nous a dit, tu es pécheur, tu mérites le châtiment, et Dieu va te punir. Il a dit, mais Dieu, si Dieu il a mis en place un salut pour toi. Il y a Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi, qui est mort pour toi. Si tu te tournes vers lui, Dieu il va te faire grâce. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais encore une fois, il faut croire en Dieu. Il faut croire ce que Dieu dit. Et si on croit ces choses-là, on croit Dieu et on prend cette promesse. Et alors on se dit, oui, je te fais confiance. J'ai cette foi en toi. Ce que tu m'as promis, il est pour moi. Je suis un pécheur, oui, mais tu m'as promis que par et à travers Jésus-Christ, tu vas me sauver. Voilà ce que David, il veut dire ici. Moi, j'ai confiance à l'Éternel. Je sais qu'un jour, il va intervenir. Je sais qu'il va mettre fin à toutes mes souffrances. Car je suis son enfant. Et Jésus, il a dit, croyez-vous que votre Père, il vous donnera une pierre? Non, il vous donnera du pain si vous avez faim. Mais bien sûr, c'est toujours à son temps, n'est-ce pas? Dans la prière, notre Père, hein, il a dit, donne-nous notre pain quotidien, jour après jour. Pas, je vais remplir ton frigo, hein. Non, jour après jour, quotidiennement, le Seigneur est là. Voilà, c'est quelque chose de très important. Si une seule chose il faut faire, vous savez, il faut se jeter dans les bras d'amour de Dieu. C'est la seule chose qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il fait David. Moi, je confie. Moi, je me jette dans les bras d'amour de Dieu. Et je suis sûr qu'il va intervenir de l'Éternel. Moi, j'ai confiance. En qui? Il nous a dit, en ta bonté. J'ai confiance en qui? En ta bonté. Dieu est bon. Il n'attend que ça. Sûrement, vous avez entendu des gens, ah, moi, je ne fais confiance qu'à moi-même. C'est ça. Moi, je ne fais confiance qu'à moi-même. Cette pensée, c'est simplement de l'humanisme. Et il n'y a que moi qui compte. Il n'y a que moi. Moi, j'ai toute la possibilité de pouvoir intervenir et de pouvoir m'en sortir. Mais Jésus a été clair, vous savez. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Voilà pourquoi David, elle dit, j'ai confiance en ta bonté. Hein? En ta bonté. L'homme, c'est la déchéance même. Vous savez, le seul livre au monde qui parle de l'homme en disant que c'est une déchéance, qui ne vaut rien, c'est la Bible. Vous lisez les autres livres et ils te mettent l'homme à la première place. L'homme ici, l'homme là. Ah, ceux qui ont inventé les virus, voilà. Mais c'est l'homme là. Mais le seul qui peut mettre un terme, qui peut arrêter tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a que lui, il n'y en a pas. Moi, j'ai confiance à ta bonté, Seigneur. Pas dans la mienne, c'est ce qu'il dit David. Pas dans la mienne, ni à celle des autres. Le seul, c'est Dieu, et pas autre chose. Vous savez, les mots hébreux, « ezed », hein, ça signifie « bonté ». Il veut dire aussi « amour ». Faveur, grâce, miséricorde et piété. Il est utilisé 250 fois dans la parole de Dieu. La bonté de Dieu. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, on parle de tout. De l'amour, de la faveur, de la grâce, de la miséricorde, de la piété. Et Dieu, tout est cela. Dieu est rempli de beauté. Hein? Il est employé, comme j'ai dit, 250 fois. Hein? Et à côté de cette confiance, je vais mettre le verset des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, que tout le monde il connaît, hein, hein. Qui peut le répéter, verset 25? Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque jour. Chaque jour. Et c'est ce qu'il dit David, hein. Moi, je fais confiance. J'ai confiance en ta bonté. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui. Pas pour les autres. Les autres, ils profitent de la bonté que Dieu, il déverse sur ceux qui font sa volonté. Hein? Mais il n'y a rien de doute. L'Éternel, il est là, il regarde, il désire entendre ses enfants lui crier, « Seigneur, interviens, j'en peux plus, je ne peux plus rien faire. » C'est ça la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la bonté de Dieu pour vous? Que représente-t-elle? Ça, c'est une réponse que je vous ai donné les définitions, mais à chacun de nous de se dire, voilà, qu'est-ce qui représente la bonté de Dieu? Et voilà où est-ce que je mets Dieu avant tout. Hein? Et il faut aussi la sentir, la bonté de Dieu, dans notre propre vie. Et encore plus, y croire. Lorsqu'on ouvre la Bible, on peut se demander, est-ce que je crois à tout ce que je lis? Parce que si on n'y croit pas, on met en doute la bonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important. Et troisième point de ce verset 6, il dit, « J'ai de l'allégresse dans mon cœur. » Et pourtant, il était dans le désespoir. Dans la tristesse. Et il dit, j'ai de l'allégresse dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en ta bonté. Je suis dans la tristesse, mais en même temps, j'ai de l'allégresse dans mon cœur. Parce que je sais que tu vas intervenir. Vous savez, la joie est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup sur les visages des chrétiens. On manifeste pas cette joie d'appartenir au Seigneur. On manifeste pas cette joie en apportant l'évangile à tous ceux qui sont autour de nous. Dans le souvenir, celui que Jésus il avait guéri, hein, il était bien, il a dit, Seigneur, permets-moi de rester avec toi. Hein, il a dit, non, rentre chez toi et dis aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi. Pierre, c'est pareil. Il était sur le mont Tabor, la transfiguration, vous en souvenez? Hein, il avait vu Jésus au milieu et les deux prophètes à côté. Il a dit, ah, c'est bon Seigneur, on aimerait rester ici toute notre vie. On va construire trois tentes. Pop, ils disparaissent les prophètes. Voilà, c'est ce qui compte, c'est Jésus-Christ. Avoir cette allégresse, nous devons la manifester tout autour de nous. Mais beaucoup, ils n'ont pas cette allégresse. Même lorsqu'ils témoignent, lorsqu'ils évangélisent, ils ont cet air triste. On est des chrétiens, on est des sauvés, on est des enfants de Dieu, on est des ambassadeurs de Dieu. Nous devons avoir peur de rien et de personne. De rien et de personne. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Je suis avec vous chaque jour. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez. Allez. Mais il faut aller. Il faut se bouger. Comme j'ai dit dimanche dernier, il faut se mouiller. Voilà. Si on est chrétien, il faut se mouiller. Comment on se mouille? Mais en évangélisant, en témoignant, en manifestant l'amour pour nos frères et sœurs, en manifestant l'amour envers notre prochain. C'est comme ça qu'on se mouille. Et il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est ça. Des gens, ils s'étonnent, ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Mais voilà, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Hein? Le Seigneur encore l'a dit, lorsqu'on vous gifle sur le... Hein? C'est aussi l'autre. Faites ça aujourd'hui. Quelqu'un vous fait ça, on prend le couteau. Jésus, il nous dit de faire ça. Et pas seulement de le faire, pourquoi? Parce que lui, il l'a fait. Ils l'ont craché dessus. Ils l'ont fouetté, ils ont tout fait. Il est resté muet comme un agneau. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Et nous avons aussi cette mission. Mais nous devons manifester cette allégresse qu'il y a en nous. D'ailleurs, Paul il nous le dit dans son fameux verset, hein, qui se trouve en Philippiens 4:4. Qui connaît ce verset? Réjouissez-vous. Je répète, réjouissez-vous. Deux fois, il a dit. Ça aurait suffi de le dire une fois, n'est-ce pas? Mais comme nous, les hommes, on est un peu oublieux, hein. Je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous. D'ailleurs, toute la lettre des Philippiens, pour ceux qui sont venus lorsqu'on l'a étudiée, Philippiens, c'est l'épître de la joie. C'est la joie qui doit remplir le cœur de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu. Et ça, David nous montre toutes ces choses-là. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. Il continue ce verset. Pourquoi? À cause de son salut. À cause de ton salut. Parce que je suis sauvé. Parce que je suis sauvé. Parce que Jésus, il est à moi. L'allégresse et la joie dans mon cœur, dans notre cœur, si nous sommes chrétiens, c'est parce que on a le salut de Dieu. Bien sûr, comme je dis toujours, on ne vit pas ce salut de Dieu aujourd'hui entièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché, il y a les souffrances, il y a la peine, il y a la mort. Mais le vrai salut, c'est lorsque nous serons là-haut, auprès du Seigneur. Plus de peur, plus de pleurs, plus de souffrances, plus de morts. C'est ça le vrai salut. Mais nous pouvons dire dès maintenant, s'il m'arrive quelque chose, si je meurs, je serai auprès du Seigneur. Eh oui. Et Jean, il te dit, mais t'es pas un peu orgueilleux de dire ça, mais c'est pas moi qui le dis. Tu ouvres la Bible et tu lui dis, regarde. C'est Dieu qui le dit. Après, tu veux dire que Dieu, tu ne crois pas ce que Dieu dit. Mais ça, c'est tes affaires. Mais nous, on te dit ce que Dieu dit dans la parole. Et comme il est dit dans Ézéchiel, toi, homme de Dieu, prêche, annonce le salut de Dieu. Si les autres ils ne croient pas, c'est pas ton affaire. C'est pas notre affaire. Nous, notre affaire à nous, c'est d'annoncer. Après, s'ils ne veulent pas croire, tant pis pour toi. Moi, je t'avertis. Moi, en tant que chrétien, je suis une sentinelle. Et il faut que j'avertisse les gens tout autour de moi. Si les gens ils n'écoutent pas, l'ennemi il va arriver. C'est comme un docteur, on te dit, Aldo, tu as le cancer, il faut prendre ce médicament. Et je dis, non, je ne le prends pas. Tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je te dis ce qui va t'arriver. C'est ça que Dieu nous dit. Hein? C'est ça que Dieu nous dit. Et vous savez, pour ton salut, vous savez, le nom de Jésus, ça veut dire quoi? Sauveur. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous en est un sauveur. Et tu l'appelleras Jésus. Hein? Mais dans Ésaïe, il a parlé pas de Jésus, mais il a parlé d'Emmanuel. Pourquoi il ne l'a pas appelé Emmanuel? Parce que ce que les gens ils avaient besoin de savoir, c'est parce que le monde il avait besoin d'être sauvé. Emmanuel, il représentait la divinité, Dieu avec nous. Voilà pourquoi il dit, tu l'appelleras Jésus. Parce que c'est lui qui va sauver ton peuple. Et c'est ça. Et Yeshua, en hébreu, c'est le Messie et c'est le Sauveur. Ils attendent leur Messie aujourd'hui. Et nous aussi, nous attendons, pas le Messie, mais nous attendons notre Seigneur. Mais Jésus est le Messie, est celui que les prophètes, ils ont annoncé. Et vous savez, je l'ai déjà dit, vous dites, tu répètes toujours les mêmes choses, mais c'est les choses les plus importantes. Le Seigneur Jésus, vous en souvenez, ce qu'il avait dit, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils disent de moi, les gens? Ah, tu es le prophète, tu es un homme sage, tu es ça. Il a dit, d'accord, mais vous, qui dites-vous que je suis? Alors c'est là, Pierre, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es le Christ, tu es le Messie. Et le Seigneur, il a dit que c'est sur ça que l'Église est fondée, que Jésus est le Christ. C'est lui qui ne croit pas que Jésus est le Christ, qu'il est Dieu. Et Jésus, il le dit quand même, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Comme je dis mercredi, on en a un peu parlé, les témoins de Jéhovah, on les voit partout. Hein. Ils ont du zèle, hein. Mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Quelle est la fin de leur vie? Ils mourront dans leurs péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui l'a dit. Si vous ne croyez pas que je suis Dieu, parce que le mot « je suis », c'est le nom qu'avait donné Dieu à Moïse, vous vous en souvenez? Si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est ça que notre salut, c'est ça. Pourquoi nous avons besoin du salut? Parce que nous sommes des pécheurs. Parce que nous sommes des pécheurs. Hein, vous vous en souvenez, l'adultère. Hein, il voulait la lapider. Et alors à Jésus, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cela? Que celui qui est sans péché, il jette la première pierre. Personne n'a jeté. Pourquoi? Parce qu'on est des pécheurs. On est des pécheurs. Hein? Donc nous avons besoin de ce salut. Et à cause de ce salut, qu'est-ce qu'il fait David? Parce qu'il sait ces choses-là, David, il continue ce verset. Il dit, je chante à l'Éternel. Je chante à l'Éternel. Hein? Vous savez, le chant, c'est une manifestation pratique de notre joie, de notre allégresse. Je m'en souviens, j'ai toujours travaillé dans la restauration, je faisais le petit déjeuner le matin. Je me levais à 4h du matin, et en allant à la gare, que c'était, il était à un kilomètre et demi de ma maison, il faisait nuit, hein, je chantais des cantiques. Hein. Et alors, de l'autre côté, il est passé quelqu'un, il m'a dit, tu es chrétien? Je dis oui, je suis chrétien. Merci Seigneur. Lorsqu'on chante, on manifeste la joie dans notre propre cœur. Le chant. Hein? Ici aussi, on chante beaucoup et on manifeste ainsi la joie qu'on a d'avoir un tel Sauveur et Seigneur. Hein? Et voilà pourquoi, je vous savais, Paul, il nous le dit, hein? Louer le Seigneur avec des cantiques, de la lecture, des chants, des actions de grâce. Et je vous invite vraiment à chanter. Ça ne vous arrive pas à la maison de chanter des cantiques. Ah oui. Et lorsque vous les chantez, c'est parce que vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faisait David. Il chantait. Et David même, il dansait. Hein? Lorsqu'il est l'arche, il est rentré, hein, il dansait. Alors il avait sa femme qui l'a vu danser. Oui, le roi qui danse comme ça, un spectacle. Hein. Mais David, il était tellement rempli de joie et d'allégresse dans son cœur. Il dansait, je m'en fous de ce que les gens ils peuvent dire de moi. Et c'est comme ça que nous devons faire. Hein. Mais aujourd'hui, on regarde beaucoup. Où dira-t-on? Qu'est-ce que dira-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si je parle de Jésus, si je chante un cantique, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire là? David, il faisait, pourquoi chanter à l'honneur? Mais parce que le Seigneur est notre Seigneur, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, et c'est le seul qui est digne de recevoir toute louange, toute gloire. Pourquoi David, il continue, je chante. Pourquoi il chante en plus, pas seulement pour le salut, mais il dit, car il m'a fait du bien. Dans une autre traduction, il dit, il m'a comblé de bienfaits. Il m'a comblé de bienfaits. Dans les psaumes 23, David, ma coupe déborde. Pas seulement il la remplit, mais il déborde. Normalement, lorsqu'on remplit un verre, hein, on fait attention de ne pas. Mais lorsque Dieu il déverse ses bénédictions, ses grâces, il tombe. Pour qui? Mais pour les autres qui sont autour de nous. Vous savez, lorsque Dieu il nous bénit, c'est parce que il désire que nous, à notre tour, on bénit les autres. Voilà pourquoi des fois, un frère, une sœur, il s'élève et dit, j'ai reçu cette bénédiction, je vais vous l'exposer. Comme le frère Roland tout à l'heure, ce poème de Molière. Il a lu, il a reçu une bénédiction et il a voulu la partager avec nous. C'est ça là, il m'a fait du bien. Qui n'a pas reçu du bien de la part de Dieu ici? Personne. Déjà, si nous sommes réveillés, c'est grâce à Dieu. Hein? Car c'est lui. Il dit, il m'a fait du bien. Et David, il le clame haut et fort. Hein? Et le Seigneur, il nous le dit aussi dans Jean 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi, pas qu'il est ailleurs. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son cœur. C'est ça. Le Seigneur, il m'a fait du bien. C'est cela la vie abondante que le Seigneur nous a promis. La vie abondante. Il nous le dit dans Jean 10:10. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie. Elle est en abondance. Pas une simple vie, non? Mais une vie en abondance. Dans les psaumes 103, encore David, elle dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun de ses bienfaits. Nous savons que Dieu, il est toujours à la guide de notre vie. Et c'est ça que nous devons manifester. Voilà pourquoi, en lisant cela, je me dis, Aldo, il faut que tu réfléchisses à tous ces bienfaits que le Seigneur te donne. Et je vous invite aussi à les faire. Car une fois qu'on aura vu la rétrospective de notre propre vie, on pourra dire, merci Seigneur, tu as été là, heureusement. Heureusement. Hein? Je vous l'ai déjà dit ça, hein? Mais je ne peux parler que de moi, je ne peux pas parler de vous, hein? Parce que j'ai été transplanté du foie, il a 26 ans, imaginez-vous, 26 ans, les gens à l'hôpital me disent, mais combien de temps tu as été, 26 ans, ah! Avant la transplantation, il est venu un prêtre, Elle m'a dit, il faut se confier dans le Seigneur. J'ai dit, je n'ai rien à me confier avec vous. Hein. Moi, j'ai mon Seigneur qui me guide. J'ai confiance en lui. Et j'ai dit un peu la même chose qu'ils ont dit les trois amis de Daniel. Vous vous en souvenez, qu'il fallait adorer là. Il a dit, sache au roi que nous ne le ferons pas. Hein. Ou nous mourrons ou pas, nous adorerons pas ta statue. Et moi, c'est pareil. Et c'est ça que le Seigneur, il m'a fait du bien. Il y a ce cantique, vous connaissez ce cantique, il dit, « Vers Jésus, je lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. » Et il continue la strophe en disant, « Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux, son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. » C'est ça. Hein? Pour conclure, je vais vous demander de répéter avec moi ce verset 6. Hein? Normalement, il est très facile. Hein? Donc, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Vous savez, la vie avec le Seigneur est merveilleuse. Si nous faisons tout ce qu'il nous dit, la vie avec le Seigneur est merveilleuse. Et il n'y aura rien qu'il pourra nous faire dévier. Et Paul, il nous le dit, hein, car si le Seigneur est avec nous, ni la mort, ni la vie, ni les reins, ni, il pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, faisons confiance au Seigneur, car il est là pour ça. Et nous serons bénis. Amen.